Tamani.
Studio Tamani, voici nos informations en français.
Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition. Voici les titres. À 2 mois du scrutin référendaire, la société civile et la classe politique sont sceptiques quant au respect du délai. Elles invitent le gouvernement à honorer ses engagements. Un plan d'action pour prévenir l'enrôlement des enfants soldats a été signé la semaine dernière entre les Nations Unies et les groupes armés de la plateforme. Objectif, mettre fin aux violations des droits des enfants. Sport football éliminatoire de la Coupe du Monde Qatar 2022. Match Mali-Rwanda, c'est ce soir à 19h délocalisé à Agadir au Maroc. Les supporters maliens sont mécontents de ne pas pouvoir assister en direct au match. Je suis Hamsetou Touré à la présentation, à la mise en onde, Nouhoum Djiré. Plus que 2 mois avant la tenue du scrutin référendaire prévu pour le 31 octobre 2021, selon le chronogramme initial, les autorités de la transition rassurent que ce calendrier est maintenu. Mais le doute commence à s'installer au sein de l'opinion, notamment la classe politique et la société civile, pour le respect de cette date. Celle-ci invite les autorités de la transition à respecter leur engagement. Khalifa Goïta.
Pour le parti Rassemblement pour le Mali, aucune des dispositions préalables à l'organisation d'un scrutin référendaire n'est renue. D'où le scepticisme de l'ex-parti au pouvoir, Sekou Niamed Batili, membre du RPM.
Le fichier électoral toujours sur la table, la révision exceptionnelle des listes électorales aussi. Le collège électoral devrait être convoqué en principe. Nous restons sceptiques sur la tenue des élections, surtout en ce qui concerne les référendums. C'est pourquoi nous avons décidé d'aller vers des élections essentielles, présidentielles et législatives. Si les actes posés par le gouvernement ne vont pas dans le sens des déclarations, il va de soi qu'on soit inquiet pour la conduite des affaires publiques.
C'est l'incertitude du côté de certaines organisation de la société civile. La coalition pour l'observation citoyenne des élections au Mali s'interroge sur le respect du calendrier confirmé par le Premier ministre Choguel Kokala Maïga. Drissa Traoré, président de la COSEM.
Aujourd'hui, c'est deux activités préliminaires, à savoir l'examen du projet de constitution en Conseil des ministres et son dépôt devant les CNT n'ont pas encore été effectués. Aujourd'hui, à octobre, ça peut effectivement se poser la question s'il est bien possible que ce calendrier soit respecté.
Il faut rappeler que depuis la présentation du plan d'action gouvernemental, les autorités de la transition ne se sont plus exprimées sur le calendrier électoral. Celui-ci prevoit dans un plan initial 7 élections au total avant la fin de la transition, c'est-à-dire dans moins de 7 mois.
Le médiateur de la CEDEAO, Goodluck Jonathan, est attendu à Bamako du 5 au 7 septembre prochain. Cette visite entre dans le cadre du suivi-évaluation de la transition, la refondation de l'État, le respect du délai de la transition, l'organisation des élections vont être abordées. Vous pouvez réagir à toutes ces informations sur les réseaux sociaux à travers notre page Facebook ou notre compte Twitter. L'ONU a renouvelé lundi dernier le régime de sanctions contre le Mali. Cette décision intervient après la publication d'un rapport qui note l'augmentation de 25% des violations des droits de l'homme dans le pays. Les sanctions de l'ONU ont-elles un impact sur les intéressés? Élément de réponse dans ce reportage de Mamadou Samasekou.
Pour André Bourgeot, chercheur au CNRS de Paris, cette menace du Conseil de sécurité de l'ONU à l'égard des groupes armés et des autorités de la transition est contradictoire.
Si cette communauté internationale est muette quand un signataire transgresse le contenu, je me dis, mais de quel droit maintenant il va dire vous faites ça, sinon vous aurez des sanctions. Il y a quand même une contradiction quand même importante.
Concernant les lenteurs dans l'application de l'accord pour la paix, les sociologues Ali Tunkara estiment qu'elles étaient prévisibles.
C'est un accord effectivement qui a été signé par un État très affaibli. Lequel État affaibli a compris qu'il ne faut pas d'où aujourd'hui tous ces retards accusés dénoncés par le rapport produit par le centre Carter. Donc c'est normal que l'État ne l'applique pas parce qu'il sait pertinemment que son application va l'amener à assister à ses propres funérailles.
Sur la question de l'augmentation des violations des droits de l'homme au Mali à Paris dans le rapport de l'AMINSMA, le politologue Boubacar Boukoum parle d'acharnement contre l'État.
Cette communauté internationale s'acharne sur l'armée malienne par rapport à l'exaction alors qu'en fait on est face à des gens sans foi ni loi. Donc c'est difficile dans ces conditions quand même de demander à des gens d'être serein par rapport aux difficultés sécuritaires que nous avons aujourd'hui.
En attendant, la situation sécuritaire ne s'améliore toujours pas dans le centre du pays.
Je l'annonçais dans les titres, la mission des Nations Unies au Mali et les groupes armés de la plateforme ont signé le jeudi dernier un document intitulé « Plan d'action pour prévenir l'enrôlement des enfants comme soldats ». Ce protocole d'accord vise à mettre fin aux violations des droits des enfants et leur permettre de réintégrer leur famille ou leur communauté. Des précisions avec Ali Cissé.
La signature de ces documents était attendue depuis 2 ans, a déclaré le président de la plateforme. Fahad Agh al-Mahmoud a promis que tous les groupes armés sous commandement mettront fin au recrutement et l'utilisation d'enfants dans leur rang. Il s'engage également à prévenir les meurtres, violences sexuelles contre les enfants, les enlèvements contre les écoles et les hôpitaux. Ce document prouve notre détermination à protéger les enfants partout où ils sont, a ajouté Fahad Agh al-Mahmoud. Il promet enfin de tout mettre en œuvre pour que la mission onusienne et ses instances de protection de l'enfance soient limitées à leur base. De son côté, la MINUSMA s'est félicitée de l'aboutissement de ce processus complexe. Selon le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF, environ 600 enfants ont été identifiés comme associés aux groupes armés en 2020.
Autre sujet, les acteurs du secteur minier entendent mettre des stratégies en place pour protéger la population contre les impacts de l'activité minière au Mali. Pour ce faire, un atelier de validation du rapport provisoire de l'évaluation environnementale, sociétale, stratégique a démarré ce matin à Bamako. Durant 2 jours, les participants vont valider une étude menée dans les régions de Kaï et Sikasso afin de lutter contre la pauvreté et renforcer la production des communautés rurales. Bourema Camara, directeur de l'Agence de l'environnement et du développement durable AED2, est au micro de Jules.
Et ce processus nous permet de vivre en harmonie avec notre nature. Et donc, l'évaluation environnementale stratégique a pour objet de s'assurer que les questions d'environnement sont prises en compte dans toutes les activités que nous sommes appelés à mener dans le cadre d'un programme. Et ensuite, développer les dispositions qu'il faut prendre pour qu'au cours de la mise en œuvre des projets qui sont la déclinaison de ces politiques et de ces programmes, que leur évaluation leur étude d'impact environnemental social s'assure que vraiment il y a un cadre bien établi qui permette de mettre en œuvre ce projet sans danger et dans l'intérêt de nos populations.
Les bouchers du district de Bamako ont suspendu leur mot d'ordre de grève de 72 heures. Ce nouvel arrêt de travail devait commencer ce mercredi 1er septembre 2021. Le syndicat des bouchers a rencontré la direction générale du commerce, de la concurrence et de la consommation DGCC. Selon le secrétaire général des bouchers, les autorités ont donné l'engagement de payer une subvention aux bouchers. Toutefois, ils menacent de revenir à la charge si celle-ci ne respecte pas leur engagement. La médecine traditionnelle n'est pas restée en marge dans la lutte contre la pandémie de la COVID-19 au Mali. Le département en charge du secteur affirme qu'elle contribue aux efforts de riposte contre le coronavirus. Déclaration faite aujourd'hui dans la mouvance de la journée africaine de la médecine traditionnelle célébrée le 31 août. Professeur Rukia Sanogo, chef du département, est au micro de Hawa Berthe.
Aujourd'hui, au niveau du département médecine traditionnelle, nous avons un répertoire de médicaments traditionnels améliorés et de plantes médicinales potentielles qui ont des potentialités thérapeutiques qui peuvent contribuer à la lutte contre la COVID-19. Et ces médicaments, ce répertoire comprend les produits à propriété antivirale, antitussive, bronchodilatatrice, antioxydante, anti-inflammatoire, mais également pour le renforcement des systèmes immunitaires. Et donc nous avons aujourd'hui des données de sécurité, d'efficacité et de qualité sur les principales plantes médicinales qui composent les réceptionnels donnés par les praticiens de santé et des personnalités.
Sport, football, éliminatoire Coupe du Monde Qatar 2022. Les Aigles du Mali affrontent les Amavubi du Rwanda. C'est tout à l'heure à 19h à Agadir au Maroc. Un match délocalisé à cause de l'état du stade du 26 mars qui ne répond pas aux normes de la FIFA. À Bamako, des Maliens n'apprécient pas la délocalisation de cette rencontre. Ils demandent aux autorités de prendre les dispositions pour rénover les stades du pays. Écoutons quelques réactions au micro de Mohamed Ali Agha Aleida.
En tant que supporter malien, moi, je suis très, très attristé. Nos autorités doivent tout faire pour que cela cesse.
Vraiment, je suis très en colère.
Désormais, les Marocains n'auront même plus de respect pour nous parce que nous n'avons pas mis mettre en place quelque chose pour l'état de notre terrain. Ça, les autorités, s'il vous plaît, faites tout pour que ce terrain-là puisse être en bon état et qu'on joue désormais au Mali et non à l'extérieur.
Dans un pays indépendant depuis 1960, vraiment, ce n'est pas digne du Mali.
On a délocalisé notre terrain pour aller ailleurs. Cela veut dire que nous, on n'aime pas notre joueur même. Et puis, c'est la négligence totale aussi.
Les Maliens, on est très fiers de voir nos joueurs jouer au Mali, surtout pour y aller les regarder.
J'ai même honte de s'exprimer sur ça, quoi. Comment un Mali comme ça, problème de terrain, vraiment, ce n'est pas la peine.
Studio Tamani, financé par le gouvernement de la Suède, du Danemark, de la Suisse, la République tchèque et par l'Union européenne.
À présent, un tour en région, 7 morts. C'est le bilan des accidents de la route enregistrés ces 3 derniers mois à Kadiolo. L'information a été donnée cette semaine par l'Agence nationale de la sécurité routière à Kadiolo. La NASER indique que ces accidents sont dus à l'excès de vitesse et le non-respect du code de la route. À noter que tous ces accidents se sont produits sur la nouvelle route bitumée Kadiolo-Zigwa. Vous pouvez réécouter toutes ces informations sur notre site web au www.studiotamani.org ou en appelant gratuitement sur la plateforme Viamo au 37 321. C'est la fin de ce journal, mais restez à l'écoute dans un instant, le magazine. Au Mali, le programme alimentaire mondial PAM vient de lancer son programme de protection sociale en faveur des couches vulnérables affectées par les effets économiques de la COVID-19. Les bénéficiaires de cette assistance ont été identifiés dans 19 communes dans les régions de Koulikoro, Ségou, Mopti, Tombouctou, Gao et Menaka. L'initiative vise à apporter durant 6 mois, de juillet à décembre, des transferts monétaires à près de 2000 personnes vulnérables. Koku Amozu est le responsable de la section protection sociale au niveau du programme alimentaire mondial PAM. Il répond aux questions de Sekou Gadjigo.
L'objectif donc de cette assistance des filets sociaux, c'est justement donc d'aider les ménages vulnérables à pouvoir accéder à une alimentation. En même temps également, il y a une sous-composante sur tout ce qui est service complémentaire nutritionnel. Pour cela, il est prévu tout ce qui est formation ou orientation sur les pratiques d'allaitement ou autres de démonstration culinaire.
Qui sont ces bénéficiaires?
Des ménages vulnérables, pauvres, qui ont été affectés par les effets socio-économiques de la COVID. Il faut dire que cette intervention de protection sociale s'inscrit dans le cadre de la réponse du gouvernement pour faire face aux effets socio-économiques de la COVID. Et pour ce faire, dans les 19 communes où nous on intervient, il faut dire que ces 19 communes sont localisées donc dans les régions de Koulikoro, Ségou, Mopti, Gao et Tombouctou, donc Menaka également. Dans ces communes, nous avons, avec notre partenaire gouvernemental Digis et Mediri et la DNPSS, on a donc fait une des enquêtes RSU, donc registre certifié, auprès de l'ensemble de la population de ces communes. Au total, environ 85 000 ménages ont été enquêtés. Et à partir de là, on a défini les critères de vulnérabilité. La plupart des critères de vulnérabilité concernent, par exemple, les catégories démographiques, en présence d'enfants de moins de 2 ans, de femmes enceintes ou allaitantes, de personnes en situation de handicap. On a regardé également les caractéristiques du logement, puisque nous avons identifié avec qui on a contracté au niveau de ces zones.
Quelles sont les modalités d'assistance?
Pour l'instant, nous allons utiliser donc les coupons, qui est la modalité la plus répandue, la plus utilisée par le PAM, compte tenu du contexte aussi des zones où on intervient. Pour cette intervention, ce sont des coupons monétaires de valeur. Donc, on définit une valeur de 15 000 francs à remettre à chaque ménage par mois. En d'autres termes, nos bénéficiaires vont recevoir donc des coupons de valeur de 15 000 francs par mois. Et ceci pendant les 4 mois de la période de soudure, donc où on est actuellement, donc jusqu'en octobre, et les 2 mois novembre et décembre également.
Comment la distribution va se faire?
Nous allons passer par des ONG. La plupart sont des ONG locales qui ont des acceptances au niveau communautaire avec qui le PAM a des contrats. Et donc, ce sont ces ONG qui vont organiser les sites de distribution et donc vont distribuer les coupons à ces bénéficiaires. Et donc, ces coupons seront échangés contre des denrées alimentaires que des commerçants avec qui nous avons des contrats vont justement servir les rations ou bien vendre entre guillemets donc la nourriture à ces bénéficiaires qui vont donc payer avec le coupon que le PAM leur a donné.
Quelles sont les dispositions prises par le PAM pour limiter la propagation de la COVID-19?
Le volume de ménages ou de bénéficiaires sur site a été réduit drastiquement pour être conformé aussi aux lois du pays, avec également des dispositifs, des points de lavage des mains, bien entendu les masques ou autres également qu'on distribue à nos bénéficiaires.